Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder la deuxième épître de Jean, puisqu'on a terminé la première épître, la série sur la première épître il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, il me semble. Donc je vous invite à lire directement toute l'épître. Alors rassurez-vous, il n'y a qu'un seul chapitre et il n'y a que 13 versets. On va le lire en entier. L'ancien, à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. La grâce, la compassion et la paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain que Jésus est venu. Qui fait partie de ces gens et trompeurs? C'est l'Antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, mais veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui se tient à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. J'aurai encore bien des choses à vous écrire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors, notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur, que Dieu a choisis, t'adressent leurs salutations. Voilà notre passage du jour. Alors, l'autre jour, il y a quelques semaines, je suis tombé sur une vidéo qui est devenue un peu populaire parmi la communauté malgache sur Facebook. Alors, pour les quelques jeunes qu'il y a dans la salle, il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde est jeune à différents âges, mais je me comprends. Alors pour les jeunes, Facebook, c'est un peu le pionnier des réseaux sociaux. Alors je pense que la moyenne d'âge des utilisateurs est peut-être plus élevée que celle de TikTok ou de Snapchat. Mais il faut savoir que sur le continent africain, c'est peut-être un des réseaux, sinon le réseau le plus populaire, le plus utilisé, puisqu'en fait, c'est une application qui utilise très peu de données, très peu de data, et les données sont chères. Donc, en gros, en fait, en utilisant Facebook, on utilise moins de données. Bref, je suis tombé sur une vidéo qui m'a un peu étonné. En fait, on y voyait une grande salle. Alors, c'est plutôt un genre de gymnase, je dirais, qui ferait à peu près 4 fois cette taille, la taille de cette salle. Et cette salle était remplie de personnes. Donc la caméra était focalisée sur les personnes dans l'assistance. Donc je pense qu'il devait y avoir entre 300 ou 400 personnes assises. Alors on entendait tout d'abord la voix d'une dame qui parlait au micro. Et peu après, lorsque l'angle de vue a ensuite changé pour montrer l'autre côté qu'on ne voyait pas au début. On distinguait cette fois clairement une scène, donc une estrade, avec des écrans géants dans le fond. Et la dame qu'on entendait au début était maintenant visible. Elle était en train de s'adresser à l'assistance. Et en fait, il s'agissait là d'une église. Et on assistait sur la vidéo à, je pense, un office du dimanche. Alors la vidéo, l'extrait en tout cas, a capturé ces mots de la dame que je vais vous retranscrire. Alors je ne vais pas vous le dire en malgache parce que je pense que peu comprennent cette langue pour l'instant. Je vais citer. Elle a dit: pour ceux qui ont déjà fait l'offrande et qui sont en train de mettre en place des gros projets, notamment des projets de construction de maisons, il va falloir que vous reveniez et que vous rajoutiez une autre enveloppe, car ce que vous avez mis n'est pas suffisant. Plus vous mettrez dans la corbeille, plus vos projets réussiront. Plus vous donnerez et plus le Seigneur vous bénira. Waouh! Monnayer les grâces de Dieu. Faire de l'évangile de la grâce une sorte de business. Alors plus tard, des internautes ont vu que cette dame menait un train de vie assez luxueux puisqu'elle allait en vacances à Dubaï, rien que ça. Elle achetait de la maroquinerie de luxe, etc., etc., etc. Alors ça peut faire rire, mais c'est grave de prétendre être une église qui sert le Seigneur et avoir un comportement que je qualifierais un peu de prédateur, comme ça. Alors revenons à notre passage. Nous avons donc terminé la première épître et nous venons de lire la seconde. Alors si la première était plutôt d'ordre d'une exhortation générale, cette seconde semble être plutôt une lettre qui est un peu plus personnelle, qui est un peu plus personnalisée. Alors dans la version que j'ai lue, et dans plusieurs autres versions, Jean s'adresse à une certaine dame. Elle parle de la dame et elle parle de ses enfants. Dans certaines autres versions, un peu plus anciennes, au lieu du mot « dame », on a plutôt le nom, ou plutôt le mot, Kyria. Kyria en grec qui signifie, qui est le féminin de Kyrios, et Kyrios signifie Seigneur, donc c'est le féminin. Donc Kyria égale dame. Alors on ne sait pas réellement si Jean s'adresse à une personne en particulier, ou plutôt à une communauté, ou une église de maison. Les avis divergent un peu. Mais en fait, peu importe, ça ne va pas avoir de grande importance dans la compréhension du message qui est délivré. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette lettre, elle nous est parvenue à nous, comme les lettres que Paul a adressées aux églises, aux différentes églises, et je suis persuadé qu'en tout cas, elle parle aussi aujourd'hui à notre église, à l'église de Cré, à la communauté locale de Cré. Jean, dans ses écrits, il semble attacher une importance bien particulière à deux choses, et particulièrement à deux choses ici. Et si vous l'avez remarqué, si vous avez écouté la série des prédications sur 1 Jean, Jean revient plusieurs fois sur plusieurs choses. Donc on a l'impression qu'il fait le tour, puis revient, puis refait le tour, puis revient, puis refait le tour. En fait, c'est une technique rhétorique pour marteler et pour attacher une importance particulière à son message. Donc ici, on voit qu'il s'attache particulièrement à l'amour fraternel, d'une part, et à l'attachement à la vérité, de l'autre part. L'amour, la vérité. Alors, dans un premier temps, je vous propose de voir ce que Jean appelle l'amour ici, quel est le véritable amour. Et ensuite, nous verrons de quelle vérité il s'agit. Et nous verrons enfin comment il peut nous aider à résister face à ce que Jean appelle ici les séducteurs, ou aussi les faux prophètes, ou l'antichrist, les antichrists. Quel est cet amour véritable ? Aimons-nous les uns les autres. Jean le souligne, c'est un commandement, ce n'est pas un commandement qui est nouveau, pas du tout. Effectivement, on trouve en fait ce commandement dans Lévitique, au chapitre 19, au verset 18, où c'est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ensuite, Jésus, un peu plus tôt, dans l'évangile, cette fois-ci de Jean, au verset 12, il va le dire lui-même, « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. » Alors Jean, il va aussi le souligner plusieurs fois dans la première épître, et il va encore le réitérer dans cette lettre. Dès les premiers versets, on va voir qu'il indique qu'il aime cette église, cette dame. Si on symbolise cette dame par la communauté locale, l'église de maison, il aime cette église. Il aime cette communauté à qui il s'adresse, et il dit que les autres églises l'aiment aussi. Et comment se manifeste cet amour ? Il va le dire juste après, par la grâce, par la compassion, par la paix, par la joie, et tout cela, ça vient de Dieu. C'est un peu un cercle vertueux. Nous obéissons à un commandement de Dieu en nous aimant les uns les autres, puisque c'est un commandement. Nous obéissons en faisant preuve de compassion, en répandant la paix. Et cette obéissance, elle nous procure la joie qui va ensuite réalimenter notre attachement à Dieu et à ses commandements. Ces commandements de faire preuve d'amour envers notre prochain. L'amour envers notre prochain, c'est un peu un amour qui est un don de soi. Un don de soi pour le bien d'autrui. Ce n'est pas un amour qui peut être calculateur, un amour manipulateur, qui se demande, en fait, quel profit est-ce que je peux tirer de cette personne ? C'est un amour désintéressé, qui se demande plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne, sans que j'attende quelque chose en retour. Alors, malheureusement, notre monde a un système de valeurs qui est complètement inversé. Pour ceux qui sont dans le monde du travail encore, ou qui côtoient un ou plusieurs collègues non chrétiens, vous savez sûrement ce que c'est que de vouloir écraser un peu l'autre pour pouvoir briller soi-même. Ou à l'inverse, encenser faussement à l'excès quelqu'un pour pouvoir profiter de lui ou pouvoir avoir ses faveurs. Alors ça va dans les deux sens. On encense un patron, par exemple, pour avoir des faveurs, une augmentation, etc. On encense ses employés pour en tirer quelque chose. Donc c'est pas forcément que d'un côté. En fait, nous voyons l'intérêt derrière notre acte, souvent, et ça, c'est ce qui nous motive. Je fais exprès de parler à la première personne, hein, pas à la troisième, parce que ça serait un peu trop facile de se dédouaner, de ne pas s'inclure dans ces actes un peu intéressés. Nous avons malheureusement ce qu'on appelle notre vieil homme intérieur qui cherche toujours à se mettre en avant. Et parfois, nos actes, en apparence motivés par l'amour, peuvent malheureusement avoir pour racine profonde notre propre orgueil. C'est un peu comme cette dame dont j'ai parlé en introduction et qui, sous couvert de mener son auditoire un peu à l'obéissance du Seigneur, profite de la faiblesse des gens et leur soutire de l'argent. Que puis-je faire pour mon frère, pour ma sœur dans le Seigneur? Que puis-je faire pour cette personne qui a un besoin? Comment puis-je utiliser mes dons pour aider les autres? Ce sont là les questions, peut-être, qui peuvent nous motiver notre acte d'amour. Un acte d'amour qui devrait être authentique, qui devrait être teinté de grâce, teinté de compassion, de paix, qui viennent du Seigneur, et un acte d'amour qui procure aussi la joie chez les personnes. C'est ce que va dire Jean au verset 4. « J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité. » La vérité. Voir les frères et sœurs marcher dans la vérité nous procure aussi de la joie. Mais la vérité, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit ici? On peut se poser la question, et dans les dernières prédications sur 1 Jean, on se l'est posé. Est-ce que la vérité existe toujours aujourd'hui? À l'heure de l'intelligence artificielle et des réalités parallèles qu'on peut fabriquer, aujourd'hui par exemple, on peut créer de toutes pièces tout et n'importe quoi en quelques clics. Alors, des fausses images, des fausses vidéos, des faux articles, des logiciels en tout genre, des applications, ou même des sortes d'employés virtuels, entre guillemets, qu'on appelle aussi des agents IA. À l'heure aussi où on relativise tout, à l'heure où on adapte et on tord la réalité selon nos propres envies, selon nos propres désirs. Alors justement, on a ces beaux outils qui peuvent être bien utilisés, l'IA. J'ai demandé à l'IA de me décrire ce que veut dire le mot « vérité » aujourd'hui, pour lui. Alors je vais vous résumer sa réponse. Aujourd'hui, la vérité n'est plus un point fixe que l'on trouve. C'est un processus actif. Elle ne se résume pas à l'exactitude des faits. Elle dépend cruellement de la confiance que l'on accorde à la source qui les transmet. Un peu long, un peu complexe, mais c'est pour dire que selon lui, selon l'IA, chacun peut avoir sa vérité. Si chacun a sa vérité, est-ce que la vérité existe? Vous avez 3 heures. Alors, selon cette définition, si je ne fais pas confiance à celui ou celle qui me dit une vérité, cette vérité-là n'en est plus une pour moi. On relativise, on contextualise, on arrange comme on veut, puisque de toute façon on vit dans un pays libre, n'est-ce pas ? Liberté de parole, liberté de pensée. Et pourtant, la vérité existe bel et bien. Une vérité qui ne bouge pas, qui est immuable. Une vérité qui ne change pas. Une vérité qui ne s'adapte pas en fonction des époques, qui ne s'adapte pas en fonction des mœurs. Et par exemple, dans le dernier message de 1 Jean 5 que Michael a fait, je fais toujours une pub pour le replay sur notre site, nous a parlé du véritable. Nous sommes aussi assurés de connaître le véritable. Le véritable, la vérité. Mais qui est cette vérité? Qui est ce véritable? On a 3 exemples de vérité. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité, Jésus. Dans 1 Jean 5, verset 6, « Car l'Esprit est la vérité, le Saint-Esprit. » Dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité, la parole de Dieu. » Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et Dieu lui-même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit qui vit en nous ne s'adapte pas à nos émotions, il ne s'adapte pas à nos humeurs. La Bible, parole de Dieu, a parlé à ses premiers lecteurs, comme elle nous parle aussi aujourd'hui. On ne peut rien y rajouter et on ne peut rien y enlever. Elle est vraie aujourd'hui en 2026, comme elle l'était il y a plus de 2500 ans. Et nous sommes exhortés à nous attacher à cette vérité, attachés à la parole de Dieu, attachés à Christ, attachés à son enseignement. Alors, de manière très concrète, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça implique dans nos vies aujourd'hui? Je vais vous donner quelques exemples, sans pouvoir être exhaustif. C'est par exemple savoir tenir ferme lorsque nous sommes bousculés dans notre foi, alors que ce soit par les questions morales ou les questions éthiques. Et je pense notamment à David qui nous avait parlé du film qu'il est en train de faire sur la fin de vie. Est-ce qu'on tient ferme par rapport à ce qu'on pense, à ce que la Bible dit? Ça peut être aussi résister à la tentation, résister à la facilité. Alors j'ai cet exemple de petite magouille qu'on peut faire au travail pour gagner quelques sous, signer un faux papier, une fausse déclaration pour toucher une indemnité à laquelle on n'aurait pas droit, normalement. Ça peut être difficile aujourd'hui de tenir ferme dans la vérité, parce qu'on a peut-être peur, et c'est normal, on a peur du rejet, on a peur de la stigmatisation, on a peur de passer pour un homme, une femme un peu rétrograde, un peu vintage, un peu ancien. Mais cet attachement à la vérité nous donne aussi la capacité de discernement dans nos vies. Et notamment le discernement sur les faux enseignements qui pullulent. Alors dans le contexte immédiat de la lettre de Jean, il y avait des enseignants itinérants qui allaient de village en village, de ville en ville. C'est-à-dire que c'était des personnes qui allaient de lieu en lieu pour enseigner l'Évangile, pour répandre l'Évangile. Et ces personnes-là, en fait, dépendaient presque intégralement de l'hospitalité des habitants des villes dans lesquelles ils passaient, puisqu'on leur offrait le gîte et le couvert. Et ces personnes venaient à un endroit pour enseigner et on leur offrait de quoi se nourrir et un toit pour la nuit et peut-être aussi un peu d'argent. Dans le contexte de l'Église naissante, certaines personnes étaient sorties de la communauté des chrétiens. Alors par sortie, j'entends désolidariser. Donc ils se désolidarisent du message de la Bible. Certains enseignants ne reconnaissaient pas Jésus comme pleinement homme et pleinement Dieu, par exemple. En quelque sorte, ils ne pouvaient pas croire que Dieu ait pu s'incarner et avoir un corps mortel, un corps qui est mauvais pour eux. Et en ce sens, pour certains, Jésus n'était pas le Messie. Il n'était pas le Messie promis. C'était impossible. Certains aussi dissociaient Jésus en tant qu'homme et le Christ. Ainsi, Jésus, l'homme, est devenu pour eux le Messie au moment de son baptême, et ce fait d'être Messie se serait arrêté à sa mort. Donc une dissociation entre Christ et Jésus. Alors c'est une chose de le croire à l'époque, mais c'en est une autre de l'enseigner et de mener les gens à se détourner de la vérité pour suivre cette hérésie. Et dans notre texte, c'est contre ces personnes que Jean met en garde. Il dit qu'il ne faut pas les héberger. Il ne faut ni les héberger, ni même les saluer. Il ne faut pas leur dire bonjour. Versets 10 et 11. « Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas l'enseignement qui concerne Christ, ne l'accueillez pas de votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. » C'est fort. Ce sont des mots qui sont... Jean ne mâche pas ses mots ici. Il utilise des injonctions très fortes. Ne l'accueillez pas, ne lui adressait pas la salutation fraternelle. Alors, entendons-nous bien, hein, il parle ici de faux enseignants, de faux prophètes, qui cherchent vraiment à détourner les personnes de l'enseignement de Christ. Il ne parle pas des personnes non chrétiennes, hein, qui ne connaissent pas Christ et qui ne sont pas là pour détourner les gens. En fait, ces faux prophètes ont été annoncés par Paul, et c'est ce qui est en train de se réaliser ici. Je vous propose de lire deux passages, le premier dans Acte 20, les versets 29 et 30. C'est Paul qui parle ici. « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Ensuite, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 7, Paul va dire « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs passions et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péchés et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. » Paul est aussi très dur dans ce qu'il annonce, dans ses mises en garde vis-à-vis de ces personnes qui sont dans le troupeau et qui, bien loin d'être les brebis, sont en fait des loups féroces, il dit, des loups féroces qui déchirent le troupeau. Jean, dans notre passage, va les appeler les prophètes de mensonges, il va les appeler aussi les trompeurs, et l'Antichrist. Alors, adapté à notre époque, on peut parler aussi de ceux qui parlent d'un autre évangile, qui prône peut-être un salut sans Christ, ou un salut en Christ plus autre chose, alors que Christ a bien dit « Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul et unique chemin. » Alors, des exemples, on peut en avoir beaucoup. Vous en avez peut-être en tête. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, ceux qui suivent l'évangile de la prospérité, mon exemple de l'introduction. Et d'une manière assez générale, ceux qui rajoutent autre chose que Jésus comme condition d'accès au salut, ou encore ceux qui enlèvent Jésus de cette équation-là. Un salut en Jésus plus X ou Y, ou un autre salut dans lequel Jésus n'est pas. Certains ont détourné et continuent de détourner l'évangile pour servir leurs intérêts personnels. Alors, les intérêts personnels, ça peut être l'argent, comme l'exemple dont je vous ai parlé en introduction. Ça peut être aussi, malheureusement, le sexe, avec toutes les histoires d'abus qu'il peut y avoir. Alors, on parle souvent de l'Église catholique, mais ça serait vraiment, vraiment trompeur de penser que nos milieux ne sont pas touchés par ça. Ça peut être aussi le pouvoir. On sait que dans beaucoup de pays, la religion est utilisée pour séduire les foules et pour remporter des voix aux élections. Alors, je peux en donner des exemples. Madagascar en est un. Chaque président manipule un peu les gens pour avoir les voix. Et chaque président sans distinction de bord politique. Je vais conclure. Jean donc semble s'adresser ici à une une église, une petite église de maison, une petite communauté. Mais aussi, je pense que par ricochet, il parle à notre église. Il parle à l'église de Cré. Et il le recommande d'obéir au commandement de l'amour, à rester ancré dans la vérité, mais aussi à vivre en communion les uns avec les autres. En cela, le Seigneur nous fortifiera et nous donnera le discernement nécessaire pour distinguer ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Alors, chers amis, soyons remplis de la grâce, de la compassion et de la paix qui viennent de Dieu et de Jésus-Christ, le Fils, eux qui seront avec nous pour que nous vivions dans la vérité et dans l'amour, en communion les uns avec les autres.